chapitre 16. Pourrais-je voir le vaisseau ? Demanda Hockenberry. Le frelon venait d'émerger de la bulle bleue du cratère Stickney et grimpait vers le disque rouge de Mars.
Le vaisseau terrien ?
Dit Manmuth.
Bien sûr.
Sur un ordre émis par le Moravec, le frelon fit demi-tour, contourna le chantier et prit de l'altitude pour venir se mettre à quai près d'une écoutille des niveaux supérieurs du gigantesque spationnef articulé.
Hockenberry souhaite visiter le vaisseau,
dit Manmuth à Orfudio, communiquant par faisceau cohérent. Une seconde de bruit de fond, puis...
Pourquoi pas? En embarquant avec nous, il risque sa vie. Pourquoi n'aurait-il pas droit à une visite guidée? Astikche et les autres auraient dû lui en proposer une.
Quelle est la longueur de cet appareil?
Demanda Hockenberry à voix basse. Derrière les hublots holographiques, le vaisseau semblait haut de plusieurs kilomètres.
Elle équivaut à la hauteur de l'Empire State Building de votre 20e siècle, répondit Manmuth. Mais cette construction-ci a davantage de rondeur et de relief. Il ne s'est jamais déplacé en 0G,
émit Manmuth.
La gravité de Phobos ne peut que le désorienter.
Les champs de déplacement sont prêts,
répliqua Orfu.
Je vais les régler sur 0,8G en axe latéral et fixer la pression à une atmosphère. Quand vous arriverez dans le sas avant, l'environnement sera respirable et confortable à ses yeux.
C'est bien grand pour la mission dont ils m'ont parlé, non?
Dit Hockenberry.
Je sais que vous devez y embarquer des centaines de soldats Rogvec, mais ce bâtiment paraît quand même démesuré.
Peut-être souhaiterons-nous ramener divers objets,
dit Manmuth.
Où es-tu?
Demanda-t-il à Orfu.
Je me trouve sur la partie inférieure de la coque, mais je vous retrouverai dans la grande salle des pistons.
Quoi donc? Des roches? Des échantillons de sol?
Hockenberry n'était qu'un jeune homme lorsque l'être humain avait marché sur la Lune pour la première fois. Il se revit assis dans le jardin de ses parents, fasciné par les images en noir et blanc de la mer de la tranquillité que diffusait une petite télé posée sur la table de pique-nique, avec une rallonge courant jusqu'à la maison, tandis qu'une demi-lune bien visible flottait au-dessus des branches du chêne.
« Plutôt des gens, » répondit Manmuth. « Des milliers, voire des dizaines de milliers de gens. Accrochez-vous, on arrive. »
D'un ordre muet, le Moravec ferma les holo-hublots. 300 mètres de coque de spationnef vue du haut d'un frelon, il y avait de quoi donner le vertige à n'importe qui. Hockenberry limita questions et commentaires au strict minimum durant la visite du vaisseau. Il s'était attendu à découvrir une technologie inimaginable. Console virtuelle disparaissant sur une simple commande mentale, siège d'énergie pure, environnement de gravité zéro où les notions de haut et de bas perdaient tout leur sens, mais il avait plutôt l'impression de se trouver dans un gigantesque vapeur du 19e siècle ou du début du 20e. Le Titanic, voilà. Il était à bord du Titanic. Il y avait des consoles bien solides, en métal et en plastique. Des couchettes bien concrètes et plutôt encombrantes, de quoi accueillir une trentaine de Moravec, leur proportion n'était pas tout à fait humaine, ainsi que des soutes tout en longueur, avec des bas-flancs de métal et de nylon fixés à leur cloison. Des niveaux entiers abritaient des râteliers et des sarcophages high-tech, prêts à héberger un millier de guerriers Rogvec, lui expliqua Manmuth. Durant le voyage, il serait placé dans un état intermédiaire entre la mort et la conscience. Contrairement à ce qui s'était passé l'an dernier, précisa le petit Moravec, il serait armé et prêt à en découdre.
Animation suspendue, commenta Hockenberry.
Il n'avait pas réussi à éviter tous les films de science-fiction. Sur la fin de sa vie, il s'était même abonné au câble.
Pas vraiment,
corrigea Manmuth,
mais à peu près.
Il y avait des échelles, des escaliers, des ascenseurs et toutes sortes de mécanismes anachroniques. Il y avait des sas, des laboratoires et des armureries. Les meubles, car il y avait des meubles, étaient massifs et encombrants, comme si leur poids ne posait pas de problème. Il y avait des bulles d'astrogation depuis lesquelles on avait vu sur les parois du cratère Stickney, sur Mars et sur le chantier grouillant de Moravec. Il y avait des réfectoires, des coqueries, des dortoirs et des salles de bain, autant d'aménagements destinés aux humains, si jamais on devait en embarquer à bord, précisa Manmuth.
Combien de passagers pouvez-vous accueillir?
S'enquit Hockenberry.
Jusqu'à 10 000.
Il siffla.
Ah, il s'agit donc d'une arche de Noé?
Non,
répliqua le petit Moravec.
Le navire de Noé mesurait 300 coudées de long sur 50 de large et 30 de haut. Ce qui correspond à 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Il était pourvu de 3 ponts, ce qui représente un volume de 39 200 mètres cubes, soit un tonnage de 13 960 tonneaux. Ce vaisseau est 2 fois plus long, voire davantage, son diamètre est 1,5 fois plus élevé, bien que certaines sections, ainsi que vous l'avez constaté, soient plus bulbeuses, telles les habitats cylindriques et les soutes, et sa masse est d'environ 46 000 tonnes. Comparé à lui, l'arche de Noé n'était qu'une vulgaire chaloupe.
Hockenberry s'aperçut qu'il n'avait rien à répondre à cela. Manmuth le conduisit dans une cabine d'ascenseur en acier, et ils descendirent de plusieurs niveaux, passant devant les soutes où serait logée la Dame Noire, le sous-marin européen de Manmuth, et aboutissant dans ce que le Moravec appela les magasins de stockage des charges. Hockenberry trouva à cette formulation des relents militaires, mais il se trompait sûrement. Il décida de garder les questions pour plus tard. Ils trouvèrent Orfu Dio dans la salle des machines, que le grand Moravec avait baptisée « Grande salle des pistons ». Hockenberry se déclara ravi de le voir désormais pourvu de pattes et de capteurs. Il savait cependant qu'on n'avait pas pu restaurer ses yeux. Et tous deux passèrent quelques minutes à discuter de Proust et du chagrin avant de reprendre la visite.
« Je ne sais pas !» déclara finalement Hockenberry. « Vous m'avez décrit le vaisseau qui vous avait amené de Jupiter et son niveau technologique me paraissait incompréhensible. Tout ce que je vois ici me paraît... ressemble... je ne sais comment l'exprimer. »
Orfu émit un grondement. En l'entendant parler, Hockenberry songea, pour la énième fois peut-être, que le grand Moravec lui rappelait Falstaff.
« Vous avez sans doute l'impression d'être dans la salle des machines du Titanic. »
« En effet. » « Est-ce normal ?»
Hockenberry s'efforça de ne pas avoir l'air plus ignare qu'il ne l'était.
« Enfin, votre technologie Moravec a 4000 ans de plus que celle du Titanic. 4000 ans de plus que celle du 21e siècle où j'ai vécu, alors... pourquoi ?»«
Parce que ce vaisseau est construit à partir de plans datant du milieu du 20e siècle, »
gronda Orfu Dio.
« Nos ingénieurs voulaient un bâtiment performant, capable de nous conduire sur Terre le plus vite possible. » Soit en 5 semaines environ.
Et Manmuth et vous m'avez dit qu'il ne vous avait fallu que quelques jours pour venir de Jupiter. Et je me rappelle vous avoir entendu parler de voile de bord, de fusiopropulseurs, autant de termes que je suis incapable de comprendre. Vous n'en avez pas sur ce vaisseau?
Non, répondit Manmuth. Pour nous rendre dans le système intérieur, nous avons exploité l'énergie du tube de flux d'Io, ainsi qu'un accélérateur linéaire en orbite jovienne. Un système sur lequel nos ingénieurs travaillent depuis plus de 2 siècles. Nous n'avons rien de semblable en orbite martienne. Nous avons dû partir de zéro pour construire ce vaisseau.
Mais pourquoi utiliser une technologie du 20e siècle?
Hockenberry contempla les gigantesques pistons et arbres de transmission qui effleuraient le plafond, haut d'une bonne 20aine de mètres. Ça ressemblait bien à la salle des machines du Titanic dans le film du même nom, mais en plus grand, avec plus de pistons, plus de bronze, d'acier et de fer. Plus de leviers, plus de valves, et tous ces trucs qui ressemblaient à des amortisseurs géants. Et toutes ces jauges qui paraissaient conçues pour mesurer la pression de la vapeur, et non une quelconque fusion. L'air empestait l'acier et le cambouis.
« Nous disposions des plans, » répondit Orfu. « Nous disposions de la matière première, soit qu'elle provienne de la ceinture, soit qu'elle ait été extraite de Phobos et de Deimos. Nous disposions des unités de pulsation. »
Il laissa sa phrase inachevée.
« Les unités de pulsation ?» répéta Hockenberry. « Qu'est-ce que c'est ?»«
Toi et ta grande gueule !»
émit Manmuth.
« Tu t'attendais à quoi ? À ce que je lui dissimule leur présence ?»«
Franchement, oui. Du moins jusqu'à ce que nous nous soyons rapprochés de quelques millions de kilomètres de la Terre, de préférence avec Hockenberry à notre bord. »
Il risque de remarquer l'effet produit par les unités de pulsation lors du départ, ce qui ne pourra qu'éveiller sa curiosité.
Les unités de pulsation sont des petits réacteurs à fission,
dit Manmuth à voix haute.
Des bombes atomiques.
Des bombes atomiques? Répéta Hockenberry. Des bombes atomiques? À bord de ce vaisseau? Combien y en a-t-il?
29 700 dans les magasins de stockage des charges que vous avez vus tout à l'heure, dit Orfu. Plus 3008 de réserves entreposées ici, sous la salle des machines.
32 000 bombes atomiques,
dit Hockenberry à voix basse.
Vous vous attendez à du grabuge une fois arrivé sur Terre, dirait-on.
Manmuth secoua sa tête rouge et noire.
Ces unités de pulsation vont servir à nous propulser. à nous amener sur Terre. »
Hockenberry écarta les bras en signe d'incompréhension.
« Ces gigantesques pistons sont... Eh bien, ce sont des pistons, » dit Orfu. « Durant les premières heures du voyage, nous allons éjecter une bombe toutes les 30 secondes à travers un trou creusé au centre du plateau de poussée qui se trouve au-dessous de nous. Par la suite, le rythme sera d'environ une bombe par heure. »
Manmut enchaîna.
« À chaque cycle, nous éjectons une charge, vous risquez de voir un nuage de vapeur dans l'espace, nous aspergeons le plateau de graisse pour prévenir son ablation, ainsi que celle du tube d'éjection, puis la bombe explose et le jet de plasma vient frapper le plateau de poussée. »
« Ça ne risque pas de le détruire ?» demanda Hockenberry. « Sans parler du vaisseau dans son ensemble. »«
Pas du tout !» répondit Manmut. « Vos scientifiques ont mis ce dispositif au point dès les années 50. Le plasma pousse violemment le plateau vers l'avant, ce qui actionne ces gigantesques pistons. Au bout de quelques centaines d'explosions, le vaisseau aura atteint une vitesse respectable. »
« Et ces jauges ?» demanda Hockenberry en désignant un cadran qui semblait conçu pour mesurer la pression de la vapeur.
« Celle-ci mesure la pression de la vapeur, » répondit Orfudio. « Sa voisine mesure celle de l'huile. Au-dessus de vous se trouve un régulateur de voltage. » « Vous avez raison, Dr. Hockenberry. Le chef mécanicien du Titanic serait plus à son aise ici qu'un ingénieur de la NASA de votre époque. »
« Quelle est la puissance de ces bombes ?»«
On le lui dit ?»
émit Manmut.
« Évidemment, » répondit Orfu. « Il est un peu tard pour mentir à notre hôte. »
« La puissance de chaque charge est légèrement supérieure à 45 kilotonnes, » dit Manmut.
« 45 kilotonnes multipliées par plus de 30 000 bombes ?» murmura Hockenberry. « Ne risque-t-elle pas de laisser un sillage radioactif entre Mars et la Terre ?»«
Elles sont relativement propres, » dit Orfu, « pour des bombes à fission. »
« Quelle est leur taille ?»
Hockenberry constata soudain que la température était plus élevée dans la salle des machines que dans le reste du vaisseau. La sueur gouttait sur son front, ses lèvres et son menton.
« Montons au niveau supérieur, » dit Manmut,
qui se dirigea vers un escalier en colimaçon suffisamment large pour laisser passer Orfu.
« Nous allons vous montrer. »
La salle que découvrit Hockenberry devait mesurer 50 mètres de diamètre et 25 de hauteur. La quasi-totalité de son volume était occupée par des râteliers, des tapis roulants, des leviers, des chaînes et des toboggans. Manmut pressa un gros bouton rouge et les tapis roulants, chaînes et trieuses s'ébranlèrent en ronronnant, convoyant des centaines de milliers de petits conteneurs argentés qui ressemblaient furieusement à des boîtes de Coca-Cola.
« On dirait les entrailles d'un distributeur de Coca !» dit Hockenberry, soucieux de détendre l'atmosphère de plus en plus pesante.
« Ce système a été conçu par la société Coca-Cola vers 1959, »
gronda Orfudio.
« Les plans et la conception d'ensemble proviennent de l'usine d'Atlanta, en Géorgie. »
« Une pièce de 25 cents et hop, vous avez votre Coca, » dit Hockenberry d'une voix blanche. « Ou plutôt votre bombe de 45 kilotonnes prête à exploser à la poupe du vaisseau. Et des milliers comme elle. »«
Exact, »
fit Manmut.
« Pas tout à fait, » corrigea Orfudio. « Rappelez-vous que ce système date de 1959. Une pièce de 10 cents suffit. »
L'ionien émit un grondement si puissant qu'il fit vibrer les conteneurs argentés dans leurs anneaux métalliques. De retour dans le frelon qui filait vers le disque rouge de Mars, Hockenberry demanda à Manmut
« J'ai encore une question à vous poser. Ce vaisseau, est-ce qu'il a un nom ?»«
Oui, certains d'entre nous ont estimé que c'était nécessaire. » Nous avons d'abord pensé à Orion.
Pourquoi ?
Hockenberry fixait le hublot arrière derrière lequel s'éloignaient Phobos, le cratère Stickney et le gigantesque spationef.
C'est ainsi que vos scientifiques du XXe siècle avaient baptisé leur projet de vaisseau à propulsion nucléaire,
répondit le petit Moravec.
Mais, au bout du compte, les intégrateurs primes responsables de l'expédition terrienne ont accepté le nom Corfu et moi leur avons proposé.
À savoir ?
Hockenberry se cramponna à son siège invisible, comme le frelon entamait son entrée dans l'atmosphère martienne.
« La reine Mab !»
dit Manmut.
« Allusion à Roméo et Juliette. Une idée à vous, sans aucun doute. Digne d'un fan de Shakespeare. »
« Non, une idée d'Orfu, aussi bizarre que cela paraisse. »
Il survolait à présent les volcans de Tarsis, filant vers Olympus Mons et le trou de Bran donnant sur Ilium.
En quoi ce nom convient-il à votre vaisseau ?
Manmut secoua la tête.
Orphu n'a pas répondu à cette question, mais il a gratifié à Stigche et les autres d'un extrait de la pièce.
Lequel ? Manmut récita.
Vrai ! Alors je vois bien que la reine Mab vous a rendu visite, la coucheuse des songes parmi les fées. Elle qui vient, pas plus volumineuse qu'une agate à un index d'échevin, derrière un attelage d'infimes créatures, se poser au bout du nez des hommes dans leur sommeil. Son chariot est la coque d'une noisette aménagée par un écureuil menuisier ou l'un de ces vieux vers qui trouent le bois, l'un et l'autre, depuis le fond des âges, les carrossiers des fées. Les rayons de ses roues sont faits de longues pattes de faucheux, la capote d'un élytre de sauterelles, les guides des toiles les plus fines de l'araignée, les colliers des iridescences humides du clair de lune, le fouet d'un os de grillon et sa mèche, c'est un fil de la Vierge. Et le cocher, un moucheron de petite taille au manteau gris, qui n'est pas la moitié du petit ver rond que l'on extrait du doigt des filles flémardes. Voici dans quelle pompe elle va nuit après nuit, au galop, dans la tête des amoureux, et alors ils rêvent d'amour. Sur les genoux des courtisans qui rêvent aussitôt de courbettes, sur les doigts des hommes de loi qui rêvent aussitôt d'honoraires, sur les lèvres des dames qui rêvent aussitôt de baisers, mais que Mab irritée afflige souvent de cloques, etc., etc.
Conclut le Moravec.
Etc., etc.,
répéta Thomas Hockenberry, PhD. Olympus Mons, l'Olympe des dieux, occupait la totalité des hublots avant. À en croire Manmut, le volcan s'élevait à présent 21 287 mètres au-dessus du niveau de la mer, soit 4500 mètres de moins que l'altitude qu'on lui attribuait à l'époque d'Hockenberry.
C'est déjà bien assez, songea celui-ci.
Et là-haut, sur son sommet herbu, sous l'égide étincelante qui accrochait la lumière matinale, demeuraient des créatures vivantes, des dieux qui plus est, les dieux. Des créatures occupées à guerroyer, à respirer, à se quereller, à comploter, à s'accoupler comme les humains qu'Hockenberry avait connus lors de sa précédente existence. En cet instant, le nuage de dépression qui s'était accumulé au-dessus de lui durant les derniers mois se dissipa soudain, tout comme les nuées blanches qu'il voyait s'éloigner d'Olympos, poussées par le vent venu du nord, de cet océan qu'on appelait la mer de Tétis. En cet instant, Thomas C. Hockenberry, docteur S. lettres classiques, était heureux, totalement heureux d'être vivant. Qu'il décida ou non de participer à cette expédition terrienne, il n'aurait donné sa place pour rien au monde, même si on lui avait proposé de changer d'époque ou de lieu. Manmut fit virer le frelon pour foncer sur le flanc est d'Olympus Mons, visant le trou de Bran et Ilium.